Mais Nîmes, c'est une ville de football.
Je n'ai pas dit que Nîmes n'était pas une ville de football.
L'équipe de Nîmes Olympique.
L'ouverture du score. Et elle est nîmoise, cette ouverture du score. Dès la 9e minute de jeu.
C'est un fief du foot. Cette tribune que vous voyez là, toute rouge, c'est assez rare dans le foot français.
Il y a un amour immodéré pour ce club.
Vous le croyez que tout était fait pour les Nîmois. Tout est à refaire d'un côté comme de l'autre.
Bravo les Nîmois, je le dis, bravo les Nîmois.
Par cette victoire, Nîmes confirme ainsi ses prétentions du début de saison.
Cet après-midi, encore une fois, le public a répondu présent, donc c'est magnifique pour nos joueurs, c'est super.
L'entraîneur nîmois devait être comblé à 2 minutes de la fin de la rencontre.
Jouer devant 15 000 personnes, jouer devant votre famille, jouer devant vos amis, quoi qu'il se passe, on va au bout ensemble.
Le 11 de Nîmes, l'émission du Nîmes Olympique.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans cette 6e émission, le 11 de Nîmes, consacrée au Nîmes Olympique. Ici on parle football, mesdames et messieurs, et on parle du Nîmes Olympique. Vous êtes bien branchés sur Rage à Nîmes et ses alentours, sur le 102.5 en FM. Vous pouvez nous écouter aussi en live sur lerage.fr. Nous retrouver en podcast aussi sur lerage.fr. Il suffit de se géolocaliser en haut et de mettre Nîmes. Et les podcasts aussi sont dispo sur iTunes depuis peu. Donc voilà, allez faire un tour sur iTunes. Vous pouvez retrouver tous les podcasts. Petit tour de table tout de suite avec mon cher Bill, Monsieur Stat. Comment ça va, Bill?
Bah écoute, ça va très bien. Belle surprise et belle victoire à Strasbourg. Donc tout va bien.
On aura le temps de débriefer ça. Alex, comment ça va?
Mais parfait, toujours bien.
Tu as été retenu dans l'effectif.
Encore
cette
une fois, ouais, malgré mon petit torticolis, mais ça va, je serai prêt.
Benjamin, donc cofondateur du 11 de Nîmes avec nous toujours. Comment ça va, Benjamin?
Bah, super heureux de cette victoire et puis super heureux de l'invité du jour que tu vas annoncer très prochainement.
Et oui, invité du jour, donc Christian Perdrier, ancien président du Nîmes Olympique. Comment ça va, Christian?
Très bien, très très bien. Merci de m'avoir accueilli.
Bah, c'est un plaisir de vous recevoir, monsieur le président. On peut dire encore monsieur
oui,
le président
bien, oui, on reste président à vie.
On reste président à vie, c'est comme la politique.
C'est comme la politique, oui.
Très bien. Alors tout de suite, petit sommaire de l'émission, mesdames et messieurs.
Salut, c'est Renaud Ripard, vous écoutez Rage et vous êtes bien sur l'émission Le 11 de Nîmes.
Donc aujourd'hui, on va faire bien sûr, t'en parler Bill rapidement, le débrief donc troisième mi-temps de ce match face à Strasbourg. C'était ce week-end, on a gagné les amis 1-0, un match très disputé, un match pas super à regarder, mais en tout cas la victoire est là, on est content. On va faire l'avant-match aussi, l'échauffement pour le match face à Amiens, donc qui est demain soir, qui est au Costières, qui se joue chez nous. Match qui va être disputé aussi, parce que deux équipes sur le papier qui semblent être au même niveau en tout cas. Et bien sûr, on va prendre un peu de temps pour poser plein de questions à Christian Perdrier, qu'on a le plaisir d'avoir dans l'émission, comme je vous le disais tout à l'heure. Petit tour de la crocosphère sans tarder. On va parler des U19 tout d'abord, on va faire un petit point sur les U19 de Toifilou Maolida qui ont perdu lourdement 5-0 à Castelnau après une série de victoires quand même assez importantes. Ils sont combien au classement là pour le moment, les U19, Benjamin?
Je crois qu'ils sont 3e de mémoire.
3e de mémoire, donc c'est pas mal malgré cette défaite 5-0. La réserve, quant à elle, a gagné 1-0.
Et a enchaîné un deuxième succès donc contre Romorantin avec un but du grec Panagiotis Vlachodimos, le petit chouchou à Laurent Boissier, et donc il s'est relancé. Et ça, c'est une très bonne nouvelle puisqu'on va le retrouver, on l'a retrouvé mardi en Coupe de la Ligue.
Très bien. Et donc, ouais, c'est bien pour Vlachaud, ça lui remet un peu de confiance.
Ça met du baume au cœur pour lui, c'est très bien, c'est une bonne nouvelle, franchement. On sait que Blacard est pas trop, c'est pas trop son préféré, mais voilà, pour la confiance du joueur, c'est une bonne chose. C'est un bon début, on l'espère en tout cas.
Et chez nos jeunes aussi, donc on peut noter le départ de Ryan Kemaï, c'est ça?
Oui, c'est un joueur qui a été formé au club donc depuis tout petit. Il est nîmois, il est d'origine tunisienne, il a signé pro au stade tunisien en D1 tunisienne. Donc voilà, un petit clin d'œil à lui, il va découvrir un championnat professionnel. C'est un membre de la génération 98 qui était très très prometteuse et qui a été d'ailleurs chaperonné par Bernard Blacard justement, et dont fait partie aussi Sofiane Alacouche. Donc voilà, on lui souhaite une bonne chance pour la suite de sa carrière.
C'est le seul qui est dans l'équipe 1 à la couche, qui est resté de cette génération.
C'est le seul pour l'instant qui a signé pro. Voilà, il y a notamment Théo Setlus qu'on a eu les semaines précédentes. Et pour l'instant, il n'y a que Sofiane à la couche qui a signé pro au Nîmes Olympique.
Bon, bien sûr, cette victoire face à Strasbourg avec ce premier but de Hervé Liboyi en Ligue 1. On aura l'occasion de revenir sur ce match qui était ce week-end. Et bien sûr, la grosse actu chaude de la semaine dernière dont on n'a pas eu l'occasion de parler dans l'émission, c'est Jordan Ferry, donc nouvelle recrue. 160 matchs en Ligue 1 sur 7 saisons dans l'élite, 35 matchs de Coupe d'Europe, 10 en Ligue des Champions, natif de Cavaillon, donc pas loin, 26 ans, beaucoup d'expérience. Est-ce que ça serait pas un peu la recrue parfaite? Faites, messieurs.
De mon point de vue, oui, en fait. Je pense la question, c'est qu'on risque de s'habituer à un joueur qu'on aura du mal à garder à la fin de la saison, mais on va en profiter parce que sur l'entrée qu'il a fait contre Strasbourg, on se rend compte tout de suite de ce qu'il apporte et de l'expérience. L'équipe en manque un petit peu et on peut pas cracher dessus.
Christian, c'est une bonne nouvelle alors, Ferry à Nîmes ou pas?
Ah oui, c'est une bonne nouvelle. Je crois que, comme vous venez de le dire, on ne peut pas cracher sur l'arrivée d'un Ferry. Ferry, c'est quand même un ton au-dessus de ce que l'on a hein, sur le terrain, sans vouloir, bien entendu, dénigrer les joueurs actuels. Mais c'est quelqu'un qui vient de l'Olympique Lyonnais et qui est très solide. Donc, il va nous faire du bien, oui, bien sûr.
Alors, pour la petite histoire, c'était Diallo qui avait signé à Nîmes, qui avait des problèmes de cheville, qui s'était blessé, je ne sais plus sur quel match il s'était blessé.
Oui, il ne s'est pas vraiment blessé sur un match en particulier. C'est juste que, simplement, il y a de l'usure pour un joueur de 32 ans qui a plus les chevilles pour jouer à un niveau professionnel, tout simplement.
Donc dans le groupe on n'avait que trois milieux, le problème c'est qu'on joue souvent en 4-3-3, donc avec trois milieux, donc pour le turnover c'était pas top, on avait que Bobichon, Valls et Savanier, donc là c'est aussi une bonne nouvelle pour Bernard Blacard, l'entraîneur de Nîmes, qui va pouvoir faire tourner un peu, et avec un joueur comme on disait, avec beaucoup d'expérience, donc pour toi bonne nouvelle aussi.
Ouais, pour moi très bonne nouvelle, c'est un garçon qui a 26 ans, a plus d'expérience que n'importe quel joueur du groupe, qui a un impact aussi dans le jeu, on l'a vu, on le verra contre Strasbourg, on y reviendra tout à l'heure, mais voilà, quand un joueur de l'Olympique Lyonnais qui a deux saisons pleines je crois à l'Olympique Lyonnais à même pas 25 ans, c'est une valeur sûre, c'est évident.
Bon, on aura l'occasion d'en reparler dans l'émission parce que justement il a joué quelques minutes contre Strasbourg en fin de match, il a été plutôt très bon même, dès son entrée on a marqué quelques minutes après, bon même il est pas sur action.
C'est lui qui amène le corner.
Ah c'est lui qui amène le corner quand même, donc j'ai pas eu l'occasion de voir le match parce que j'avais des obligations professionnelles de plateau radio à cause de Rage, mais j'ai pu voir le résumé. Je te laisse la parole, Alex, je te laisse avec Christian Perdrier, donc président du Nîmes Olympique de 2014 à juin 2016.
Oui, alors Christian Perdrier, 67 ans, aujourd'hui résident de l'agglomération de Montpellier. Ah là là, ça commence mal,
je sais bien, mais nul n'est parfait.
L'essentiel de ce qu'on vous connaît concerne votre carrière professionnelle, alors parlons carrière professionnelle. Elle démarre avec une formation de management en hôtellerie à Lausanne, et puis c'est le groupe Accor qui vous occupe pendant 18 ans. Alors au début c'est Lyon, Limoges, ça fait peut-être pas forcément rêver pour le début de carrière, mais après on voit apparaître des Bagdad, Djeba, Abu Dhabi, donc un peu plus exotique, même si aujourd'hui ces destinations sont un peu teintées de conflits ou de soupçons de liens avec des mouvances extrêmes. Là c'était dans les années 80, donc je pense que ça allait. Et puis du Moyen-Orient à l'Asie, en passant par les États-Unis, vous arrivez à Paris. Christian Perdrier, vous intégrez donc Disneyland Paris, à vous la vie de château, celui de la Belle au Bois Dormant, ou d'ailleurs après celui d'Harry Potter aussi, quelques années plus tard, non sans être passé par un projet à Dubaï. Mais tout ça, c'était sans compter sur le Nîmes Olympique. Et Jocelyne, je vous soupçonne d'être très amoureux, Christian, puisque vous laissez donc tomber l'Angleterre et Harry Potter pour venir dans le sud de la France et accompagner votre femme dans ses projets professionnels. De fil en aiguille, votre parcours vous amène donc à la tête du Nîmes Olympique après une présidence familiale sous l'ère Gazot, puis une brève présidence de Jean-Marc Conrad qui laisse le club avec une image pour le moins négative. Vous devenez donc le premier de la hiérarchie des crocos.
J'ai pris le challenge et le poste en toute connaissance de cause. Ma carrière est derrière moi. Contrairement à d'autres clubs peut-être ou d'autres gens, le club de Nîmes n'est pas à mon service. Moi, je suis au service du club. Et puis, je ne serai pas jugé en tant qu'ami de Jean-Marc Corin, je vais être jugé en tant que président. Est-ce qu'il a des résultats ou il n'a pas de résultats? Parce que c'est pas parce que je suis un ami ou pas ami de Jean-Marc Corin que je serai meilleur ou moins bon président.
Donc là, c'était votre conférence de presse pour votre arrivée au club en 2014. Et le but de cette présidence, c'est de remettre de l'ordre sur le plan sportif, mais aussi sur le plan financier. Pour le plan sportif, on notera la signature de TJ Savanier, yes, après le malheur de l'ACR Lavignon, et l'arrivée aussi de Bernard Blacard en novembre 2015. Et pour une 7 seconde saison qui s'annonce, celle de 2015-2016, on évite la sanction avec la relégation, mais on démarre avec 8 points de pénalité.
C'est quand les choses sont difficiles et qu'on les obtient qu'elles ont de la valeur. Donc on va aller chercher les 50 points, j'ai absolument aucun doute qu'on va y arriver. Ça ne sera pas facile, mais bon, si c'était facile, on ne serait pas là. Donc, on a une bonne équipe, on a un bon coach, on a une bonne équipe. Donc, je suis confiant, ouais, je suis confiant, il n'y a pas de souci.
Et pour les aspects financiers, ben, on peut faire confiance aux businessmen, ou pas d'ailleurs. La technique est simple, on dépense moins et on gagne plus. Exemple avec la billetterie, on passe de 5733 spectateurs, très précisément de moyenne en 2013-2014, 5027, puis 6921 en 2015-2016. Peut-être en attirant de nouveaux publics via les réseaux sociaux où des questions-réponses en live sont menées par ce nouveau président du Turfu.
Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir dans cette nouvelle émission avec Plush en direct sur tous les réseaux sociaux pour essayer de répondre à vos questions. Je reçois énormément de questions, je ne suis pas sûr que j'arriverai à répondre à toutes les questions. On essaie de les regrouper par thème pour pouvoir en tout cas aborder tous les sujets. Mais ne vous inquiétez pas, c'est la première d'une longue série d'émissions, donc il y en aura d'autres et je répondrai absolument à toutes les questions.
Alors là, on reconnaît bien sûr la qualité des modems de 256K, mais toujours sur les aspects financiers, les investisseurs sont là. Rani Assaf intègre le club en tant que numéro 2 de l'IAD, la maison mère de Free, en même temps que Conrad et Kasparian. La fameuse affaire laisse Rani Assaf majoritaire du club et puis l'histoire fait la suite. Comme le veut l'expression au Costières, qui ne saute pas n'est pas ni moi. Et si Christian Perdrier vous avait sauté en 2016, il n'en reste pas moins que vous êtes bel et bien ni moi.
Très bien, merci beaucoup Alex, très belle présentation, ça vous a plu Christian?
Très bien, tout à fait. Je suis ni moi, ça je peux vous le dire.
Bon mais messieurs, on va faire une petite pause et on va se retrouver dans quelques minutes donc pour la deuxième partie de l'émission, si vous le voulez bien. On va débriefer donc, on va faire la troisième mi-temps de ce match face à Strasbourg. On va retrouver bien sûr les stades de Bille, on va retrouver la réaction aussi de Bernard Blacard après ce match face à Strasbourg, qui est plutôt satisfait. Aussi faire un, bien sûr on en parlait en quelques mots, mais l'arrivée de Ferry, on aura aussi l'occasion de revenir sur ça en deuxième partie d'émission et poser encore plein d'autres questions à Christian Perdrier, ancien président du Nîmes Olympique de 2014 à 2016. Allez, bougez pas, vous êtes toujours dans le 11 de Nîmes, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. À de suite.
Pour ce qui est du budget,
oui, s'il vous plaît.
Comme dit le proverbe, le crocodile ne peut pas croquer deux gazelles à la fois sur le territoire du gorille.
Merci, monsieur le ministre.
Le 11 de Nîmes, l'émission du Nîmes Olympique sur Rage.
Et oui, vous êtes toujours sur Rage, vous êtes toujours dans le 11 de Nîmes, l'émission consacrée au Nîmes Olympique sur l'antenne de Rage. N'hésitez pas donc à aller faire un tour sur lerage.fr, sur la page Facebook aussi, le 11 de Nîmes, pour avoir toutes les actus fraîches et chaudes sur le Nîmes Olympique. Vous nous écoutez à Nîmes, en tout cas sur le 102.5 en FM, et vous pouvez nous retrouver en podcast sur le www.rage.fr, mais aussi sur iTunes maintenant depuis peu. Donc, deuxième partie d'émission, nous sommes toujours avec Christian Perdrier, il n'a pas bougé, il est toujours là, et on va parler donc de ce match face à Strasbourg. On a gagné ce week-end 1-0, c'était à la Méno. Donc troisième mi-temps ensemble, messieurs, tout de suite. Pas mal de choses à dire sur ce match face à Strasbourg. Ce jingle est toujours aussi magnifique. On vous invite toujours à aller découvrir ce grand groupe de musique actuelle, juste génial, Carton Rouge. Donc on va parler de ce match face à Strasbourg. Première fois que Nîmes gagne de manière, on va dire, classique, avec un retournement de situation à Angers, un peu miraculeux. Aussi un match miraculeux contre Marseille et une raclée contre Dijon. Là, c'est la première fois qu'on gagne, on va dire, 1-0, un match un peu classique. Ça donne quoi niveau chiffre, Bill ?
Alors niveau chiffre, déjà un petit point sur le classement général. On est 11e avec 17 points et je vous annonce une très bonne nouvelle, c'est qu'on a 6 chances sur 7 de se maintenir. C'est statistique, c'est comme ça et ça ne trompe pas. Pourquoi 6 chances sur 7 ? C'est parce que j'ai regardé sur les 16 dernières années, c'est-à-dire depuis que le championnat est revenu à 20, seules 7 équipes sont descendues sur l'ensemble des équipes qui ont atteint la deuxième division, ou plutôt qui sont descendues tout simplement, pardon, ce qui nous amène à une statistique de une chance sur 7 de descendre l'année prochaine.
Alors on peut aussi noter quand même que Liboui a fait un très très gros match avec ce but, il est complètement esselé là sur, au second poteau sur le but, mais ce qui fait de lui qu'il est dans l'équipe type de la semaine de l'équipe, ça fait plusieurs semaines de suite qu'il y a pas mal de joueurs de Nîmes qui se retrouvent dans cette équipe type comme Savanier, comme Bernardoni qui s'y retrouve très souvent, Ripard aussi. On peut noter aussi que Savanier, si on comptabilise et qu'on fait une moyenne de ses matchs, il a 6,11 de moyenne, ce qui fait qu'il est le quatrième meilleur joueur de Ligue 1, selon l'équipe, hein, toujours, juste derrière, trois Parisiens, donc ce qui veut dire que quand même, il est très très bon, il a une très bonne moyenne, en tout cas, toujours selon l'équipe.
Derrière Mbappé, Cavani et Neymar.
Ce qui veut dire qu'il va être courtoisé assez grandement à la fin de la saison.
Ça c'est sûr, on s'en doute.
Si Rani Assaf veut le vendre au prix de Mbappé, je pense que ça va être intéressant à voir.
Je ne sais pas combien ça vaut un Savanier là comme ça aujourd'hui, combien on dirait ?
Plusieurs millions.
Plusieurs millions, ça c'est sûr.
Ouais, c'est sûr. Ouais,
il faut voir combien il lui reste d'années de contrat aussi, je ne sais pas combien... Ça fait un moment qu'il n'a pas...
Qu'il n'a pas renouvelé.
Je pense qu'il doit lui rester un an ou deux maximum, donc il ne faut pas traîner.
Ouais, c'est clair. Bon, là encore cette saison, on profite. Bill, tu voulais dire quelque chose ?
Ouais, toujours sur les chiffres, on est excellent à l'extérieur. On est quatrième en fait en classement général à l'extérieur. Donc on voyage très bien. Il va falloir un peu que les Costières se remotivent si c'est possible pour qu'on arrive à être meilleur aussi à domicile. Et surtout, ce qui a changé, c'est qu'on est la troisième meilleure défense sur les 6 derniers matchs. Je rappelle qu'en début de saison, on était dans les pires défenses. Et ce qui a changé, c'est qu'on est la troisième. On devient solide. L'équipe change un peu de visage. Elle s'acclimate à la Ligue 1 pour notre plus grand plaisir.
Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que sur chaque match, quand même, je trouve qu'on a un beau visage, quand même. Même quand on perd, on montre un beau visage, on montre qu'on est une équipe conquérante. Et même lors des défaites, on a beaucoup de regrets. C'est jamais des défaites où on se dit, bon, ok, c'est mérité. Même celle face à Lyon, on a beaucoup de regrets parce qu'on a eu beaucoup d'actions. Donc ça aussi, c'est bien. On montre toujours un bon visage, même lors des défaites. Tu voulais dire un petit mot sur Théo Valls ?
Oui, dire qu'il avait été très bon face à Strasbourg et que je le trouve de plus en plus intéressant de match en match. Il avait déjà montré des aptitudes en Ligue 2 et je le trouve à un niveau qui se rapproche de plus en plus de la Ligue 1 et j'ai très très hâte de le voir avec un Jordan Ferry et un TJ Savanier dans ce milieu à 3 qui va faire certainement la deuxième partie de saison.
Vous voulez rajouter quelque chose ou on écoute l'entraîneur Bernard Blacard et on rebondit un petit peu sur ce qu'il dit, on fait ça ?
Écoutons Bernard,
Saint Bernard, on l'écoute tout de suite.
Voilà, on s'est accroché avec nos moyens en première mi-temps, en deuxième mi-temps on a profité d'un mi-temps pour avoir une petite réorganisation tactique et ça a plutôt bien fonctionné parce qu'on a eu quand même la maîtrise en deuxième mi-temps, je pense. Strasbourg était beaucoup moins dangereux, on peut regretter après tous les ballons, notamment 1-0, tous les ballons de contre-attaque qu'on a eus et qu'on a mal exploités. Mais on a tenu le coup jusqu'au bout. Voilà, les joueurs se sont bien accrochés, bien battus. Voilà, ce groupe avance, doucement avance. Les résultats peuvent être trompeurs aussi. Hein, parce que oui, on avait démarré par 2 victoires, mais une très heureuse, si tu veux. Enfin, très inattendue à un moment donné dans le match, en tout cas. Puis le match contre Marseille, Marseille, à mon avis, n'était pas encore tout à fait prêt. Alors que nous, on l'était peut-être déjà. Mais l'équipe avance parce que j'ai parlé l'autre jour des 4 derniers matchs entre les deux dernières trêves, les 4 derniers matchs ont été intéressants. Ça paye pas toujours, mais vous savez très bien dans le football que les équipes sont tellement proches les unes des autres que des fois ça paye pas. On a fait un bon match à Lyon, on a pris 0 points. À Nice, contre Nice, on a fait des choses à 11, à 10 et à 9 de qualité. Mais bon, voilà, ça paye pas évidemment.
Alors il dit à peu près la même chose que nous, Bernard Blacard, c'est-à-dire que voilà, même dans la défaite, on monte un beau visage. Donc on est d'accord avec Bernard Blacard, messieurs. Donc c'est bon. Tout va bien.
Oui, tout à fait. Et puis, on en parlait un petit peu hors antenne tout à l'heure. C'est vrai que si on prend, ce serait intéressant de regarder le classement qu'on aurait sur les matchs où il y avait TJ, en fait, parce qu'on se rend compte que son absence a correspondu au creux au niveau du classement. Et depuis qu'il est revenu, en fait, toutes les victoires, il était là. Et l'équipe serait encore plus haut que 11e, ce qui est déjà génial.
Christian Perdrier, vous avez vu le match, vous avez apprécié?
Oui, tout à fait. Moi, je crois que, comme disait Bernard, ce sont des matchs qu'il va falloir apprendre à gagner. Et on a gagné. Parce que c'est vrai que, bon, 4-0 à Dijon, Marseille, tout ça, bon, ok. Mais c'est pas la Ligue 1. La Ligue 1, c'est souvent des matchs très durs. 1-0 pour nous, 1-0 pour les autres. Donc, c'est pas aussi. On apprend la Ligue 1. Et gagner à Strasbourg devant, je crois, 25 000 spectateurs. Ouais. Gagner 1-0, chapeau, c'est bien.
On est très fort à l'extérieur hein, cette année, Bill.
Ben c'est ça, on est quatrième, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Et Strasbourg, ils n'avaient plus perdu depuis le mois d'août. À la Méno, c'était contre Nantes.
Ah oui,
ils n'avaient plus perdu tout court depuis septembre. C'était contre Marseille, donc ça faisait 6 journées quand même qu'ils n'avaient pas perdu.
Ouais, non, mais justement, tu disais que Nîmes avait plus de facilité à l'extérieur. Et c'est ce que disait Thierry Lauré, l'entraîneur de Strasbourg, en après-match, qui disait en fait, Nîmes a un jeu qui est basé sur des contre-attaques assez rapides avec des joueurs Bonga et Tchoub qui sont très très rapides, avec des très bons finisseurs et des passeurs qui arrivent à vraiment se projeter très, très vite vers l'avant. Et donc je pense que c'est pour ça que Nîmes est meilleur à l'extérieur, c'est qu'ils ont un jeu fait pour gagner à l'extérieur plus facilement. C'est plus facile quand Strasbourg a eu la possession et c'est comme ça que Nîmes a pu s'imposer, je pense.
Une défense, on peut parler de la défense aussi avec donc le but de Libouis qui est bien pour sa confiance et même pour lui personnellement, c'est vraiment bien. Et puis surtout, voilà, quatrième clean sheet qu'on fait cette saison avec une défense en plus aux trois quarts remaniée, mais on arrive quand même à pas se prendre de but, ou en tout cas pas trop.
Il y avait juste Briançon de titulaire de base. Tout le reste, c'était des joueurs qui ne sont pas des titulaires de base. Il y a même Renaud Ripard qui joue arrière droit maintenant.
Qui est juste excellent, on le disait à l'autre émission, mais qui est très bien à ce poste. Moi, j'aime beaucoup.
Ouais, du coup, du côté du coach aussi, on voit un changement de tactique qui s'adapte à l'effectif qu'il a aussi. On était plus sur du 4-4-2 que ce 4-4-3, que ce 4-3-3, pardon. Mmh. Donc là, du coup, on revient avec le peu de milieu qu'on a et on essaye de faire jouer les deux ailiers que sont Tube et Bonga un peu en pointe, mais aussi être capable de revenir aider les milieux. Donc on navigue sur ce truc-là, mais j'ai l'impression que voilà, au niveau tactique, on a aussi commencé à prendre un petit peu ce dont on était capable en fonction des individus et des personnes qu'on a sur le terrain.
Et puis c'est rassurant pour la suite, quoi. Strasbourg, c'est une équipe de Ligue 1, je pense, vraiment solide chez eux. On a réussi à la gagner avec beaucoup d'absents. C'est vraiment très positif pour la suite.
En les faisant craquer un petit peu psychologiquement. Hein. Il y a un moment où ils ont basculé, là où ils prennent le carton rouge, ça y est, c'est clairement fini pour eux. Ils étaient déjà perdus, plus dans le match, je pense, à pas savoir comment faire. Je salue d'ailleurs les Strasbourgeois. Alors, comment c'était les supporters là, qui nous ont envoyé des réponses la dernière
fois? C'est Rashing, alors il faut bien le dire, Rashing Stub.
Voilà,
Rashing Stub. À l'alsacienne, à l'allemande, comme le disait Bill la semaine dernière.
Et ouais, et moi qui regarde les matchs à la télé, je tiens à saluer aussi le public de la Méno qui a été énorme, on n'entendait que jusqu'à la fin du match, c'était assez incroyable. Vivre un match à la Méno, ça doit être quelque chose.
Et puis historiquement, la centaine de présents aussi qui étaient là, on les a vus en fin de match. Bravo à ceux qui étaient montés à Strasbourg du côté nîmois.
Ouais, je voulais dire que historiquement, c'est un club qui a beaucoup d'histoire comme Nîmes et que donc les supporters sont d'autant plus motivés quand ils vont au match de 7 à 77 ans, j'ai envie de dire. Ça n'a pas été un match quand même très intéressant à regarder, on va pas se le cacher, avec 10 minutes qui ont été à haute intensité au début de la partie. Après une baisse de régime des deux équipes hein, qui ont commencé un peu à se regarder, on va dire. Et quand même un match plutôt à l'avantage nîmois parce qu'on a eu quand même pas mal d'occasions. Et Bonga qui est encore un peu vendangé. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est pas tant vendangé, c'est juste que c'est vrai que ça devient parfois un tic d'être un petit peu personnel dans sa manière de concevoir le jeu. Et il y a juste à la fin de la première mi-temps une action où s'il fait la passe, il y a but. Je vois pas comment il peut pas y avoir but. Et d'ailleurs, on sent un peu. Alors, on avait eu ça avec Cavani, Mbappé au PSG, un petit peu de concurrence entre les attaquants, mais j'aimerais bien le voir un petit peu plus altruiste sur certaines actions.
Bon, il est jeune, ça va venir, et il n'a pas beaucoup de matchs en Ligue 1 aussi, on espère qu'il va avoir un petit peu plus de réalisme. Qu'est-ce que vous pensez de cette recrue qui est la plus chère de l'histoire du Nîmes Olympique pour le moment, Christian Perdrier? Bonga, c'est un bon joueur, selon vous?
C'est un bon joueur. Maintenant, oui, effectivement, il a des tendances un petit peu personnelles, mais je fais confiance à Bernard pour remettre tout ça en place. Il sait obtenir de chaque joueur vraiment le maximum. Donc oui, c'est un très très bon joueur. Et déjà, il nous a montré de très belles choses, hein, contre Marseille et autres, il a montré qu'il était là, donc voilà, il fait partie intégrante de l'équipe, et quand il n'est pas là, ça se voit, ça se sent.
Oui, ça c'est clair. Entrée très positive aussi de Ferry, on en parlait en première séquence, en première partie d'émission, pardon, qui a montré un impact direct dans le jeu, on disait qu'il était même à la cause du corner qui amène le but, il remplace Bobichon. Vous avez aimé aussi l'entrée de Ferry, Christian?
Oui, bien sûr, c'est un grand joueur, c'est vraiment un joueur de Ligue 1, ce qu'on n'avait pas nous. Et puis deuxièmement, il va faire peur un petit peu aux équipes en face. Si Liboy se retrouve tout seul au deuxième poteau, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens de la défense qui ont suivi Ferry. Donc à un moment donné, ça se sent, ça se voit. Il y a l'impact de Ferry direct et puis indirect.
Ouais, puis avec Savanier, ça peut être un duo ravageur.
Ça va être un très très beau duo, très très beau duo. On a hâte de les voir. Hein.
Alors on est chauvin quand même, s'il y avait 5 joueurs sur 11 au départ du match qui sont formés à Nîmes, c'est assez rare, avec Ripard, Bobichon, Valls, Briançon et Paquier qui sont tous issus de la région aussi. Donc ça c'est une bonne chose, ça montre que...
Et ça avait été instauré justement sous l'ère Perdrier, hein, parce que c'était une volonté du président Perdrier justement d'amener des joueurs jeunes et issus de la région pour donner une identité à ce club et que les gens puissent se retrouver à travers cette équipe et ce club. Et aujourd'hui, on voit ces 5-là. On n'oublie pas non plus Clément Després qui était sur le banc.
Ah oui, pardon.
Donc voilà, non, mais bravo au président d'avoir fait cette initiative. Aujourd'hui, ça paye aussi en Ligue 1.
Oui, mais vous savez, il n'y a pas de secret. Si vous voulez que le public revienne, quand on était à 5000 et quelques, le stade était vide. Hein. Donc si on veut que le public revienne, il faut que les gens puissent voir des joueurs qu'ils connaissent, des joueurs du cru. Et puis deuxièmement, quand vous êtes un joueur du cru, puis que vous jouez contre un public dans lequel vous avez vos parents, vos amis, votre grand-père, votre grand-mère, tous vos frères et sœurs, vous ne jouez pas pareil. Quoi. Si vous êtes un mercenaire du football, et puis vous jouez ici, demain ailleurs, c'est pas du tout la même chose quand vous avez toute la famille, et puis le lendemain, chez le boulanger ou chez le boucher, dis donc, t'as été nul. Donc voilà, c'est pas du tout la même problématique. Quoi.
C'est clair. Bon, on se tourne justement, on va continuer avec vous, si vous le voulez bien, monsieur le Président. J'aime bien dire ça, monsieur le Président, c'est pas mal, c'est classe.
J'aime bien l'entendre.
C'est pas mal, c'est vrai que ça doit être pas mal. Alors comment s'est passé votre arrivée au club? On se souvient d'une réunion très matinale sur Montpellier, toujours Montpellier, avec votre nomination. Pourquoi avoir accepté cette nomination alors que votre carrière, on va dire professionnelle, était déjà un peu derrière vous?
Vous étiez à Montpellier à l'époque, là? Vous étiez sur Montpellier quand on a fait la réunion?
Non.
Il y avait beaucoup de journalistes qui attendaient dehors. Et comme on voulait absolument que la conférence de presse ait vraiment la priorité, je suis sorti par la fenêtre. On m'a fait sortir par la fenêtre pour aller jusqu'à la voiture. Donc, et pendant que tous les journalistes étaient en train d'attendre dehors, je suis sorti par derrière par la fenêtre. Et on était à Nîmes, ils attendaient toujours. Donc j'ai commencé très mal avec les journalistes. Donc, ils m'en ont voulu pour un petit moment. Je me suis rattrapé après, mais ils m'en ont voulu pour un petit moment. Bon, l'arrivée, oui. Moi, vous savez, je n'étais pas... j'étais pas appelé pour être président d'un club de foot. Hein. Mes enfants étaient à l'école internationale à Bayard, en même temps que les enfants de Rani Assaf et de Jean-Marc Conrad. C'est comme ça qu'en tant que père de famille, on se voit, on se rencontre, on boit un verre ensemble, on fait un barbecue le week-end. C'est comme ça qu'on s'est connus, sans plus. Comme je suis consultant dans les affaires de tourisme et de sport, Jean-Marc Conrad, qui venait de reprendre le club, m'a dit, tiens, je reprends le club, est-ce que tu peux pas faire un audit du club pour me dire un peu comment tu vois les choses et qu'est-ce qu'il faut changer? Alors moi je lui dis oui, moi je veux bien, mais je vais faire un audit sur la partie administrative et financière, pas du tout sur la partie sportive, parce que moi j'ai rien à dire. Donc il me dit ok, donc je fais l'audit, je vois tout le monde, je vois un peu ce qui se passait, et puis je fais mes recommandations. Donc je fais mes recommandations au conseil d'administration, à Jean-Marc Conrad, à Rani Assaf et autres. Et puis, je crois que c'est un mois après, on a l'information comme quoi Jean-Marc Conrad et M. Kasparian étaient donc mis en examen et mis en prison. Donc Rani Assaf s'est retrouvé tout seul... en première ligne, et il m'appelle et me dit écoute, voilà, t'as fait un audit, t'as fait la recommandation, maintenant tu essayes de les mettre en place. je lui dis oui, pourquoi pas, parce que bon, voilà, c'était une aventure extraordinaire, et ça, voilà, je crois que ça a été mis sur ma route. À un moment donné, il faut savoir répondre quand on vous appelle.
Quand vous avez appris ce qui s'est passé avec Conrad et Kasparian, vous avez été déçu forcément, mais par les personnes, vu qu'il y avait un lien d'amitié avec eux, est-ce que vous avez été déçu par les personnes aussi?
Moi, je suis tombé de l'armoire. Hein. On ne s'attendait pas à ça. On ne s'attend jamais, ce genre de choses. Maintenant, vous savez, il faut... On voit ça de notre côté, de notre fenêtre. Comment ça s'est passé exactement? Quelles sont les réalités? On n'est pas là. Hein. On n'a pas été là. On a pu lire énormément de choses. Je ne dis pas que les journalistes disent n'importe quoi, mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On se doute. Il y a eu, comment dirais-je, la police a fait toutes les investigations possibles et imaginables. Mais oui, je crois qu'ils se sont laissés prendre à une euphorie qui les a dépassés, quoi. Je crois pas que ce soit des gens malhonnêtes, vraiment, dans le fond. Je crois qu'ils se sont fait dépasser, puis voilà, quoi. Ils se sont fait prendre les doigts dans le pot de confiture.
Pour vous, ça ne s'apparente pas donc à la corruption pure et dure. C'est plus un arrangement presque à l'amiable, c'est ce que vous êtes en train de dire.
Oh, c'est peut-être pas à l'amiable, mais bon, on a vu des tas de cas dans le passé de vraiment... Regardez, en Italie, il y a pas mal de choses qui se sont passées qui sont vraiment vraies. Bon, là...
Pour vous, ça a été grossier, donc?
Ça a été... Enfin, il y a du vrai, hein, c'est sûr, il y a du vrai. Hein, les enquêtes de police l'ont prouvé. Il y a du vrai, mais... Bon, voilà, de là à jeter tous ces gens-là au pilori et les traiter comme ils ont été traités. Un petit peu de respect, parce que, bon, voilà. Je dis pas que ça peut arriver à tout le monde, mais... Bon, c'est derrière nous maintenant.
Oui, je rappelle rapidement les faits. On avait pris moins 8 points suite à une affaire de match arrangé. Il y avait aussi le club de jeu de Monsieur Kasparian qui était dans l'histoire. Monsieur Conrad qui à l'époque était président du club, qui
avait contacté plusieurs présidents d'autres clubs de Ligue 2 à l'époque, voilà, pour se maintenir. L'année où il est arrivé, il a repris le club. Voilà.
Et du coup, la saison d'après, on s'est fait prendre la main dans le pot de confiture, dites, Monsieur Perdrier, et on s'est pris 8 points de suspension, ce qui nous a pas empêché de nous maintenir. Et la saison d'après, de finir deuxième du championnat et monter en Ligue 1, ça a peut-être même été bonne chose.
La saison encore d'après.
Autant pour moi. Bill ?
Justement, je me demandais la période où José Pasqualetti, qui était alors entraîneur du Nîmes Olympique, quand il démissionne de lui-même en novembre 2015, vous êtes là depuis un an, avec peu de réseau dans le monde du foot. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est passée la nomination de Bernard Blacquart avec l'aide de Laurent Boissier ?
Écoutez, c'était à Frontignan. Oui. Je crois que Coupe de France. Frontignan.
Oui, c'était Frontignan.
On gagne, je crois, mais avec difficulté. Avec difficulté. Ouais. Et à la fin du match, José m'appelle sur le banc et puis me dit: président, j'arrête. J'ai pas compris ce qu'il me disait, parce que je pensais qu'il arrêtait. Bon, le match était fini. J'arrête, j'en peux plus, j'arrête. Alors bon, ok, très bien. T'arrêtes quand? Ce soir, là, maintenant. Bon, moi, ok, je vais pas te forcer, si t'en peux. Bon, je voyais bien qu'il en pouvait plus. Il était très fatigué, puis nerveusement, c'était dur, cette période. Donc c'était, je crois que c'est le vendredi ou samedi, je ne me rappelle plus quel jour. Et puis, je crois que le mardi ou le mercredi, on allait à Metz. Et j'avais plus d'entraîneur, comme vous le disiez, j'avais pas de contact du tout de réseau. Mais j'avais un Bernard Blacquart qui était à la formation, avec qui, bon, j'avais vu comment il travaillait, et je m'étais dit, bon, pourquoi pas Bernard Blacquart pour nous donner un coup de main. J'appelle Bernard, je crois que c'est samedi ou dimanche, et malheureusement, il n'était pas là. Il était dans sa famille à Pau. Je lui dis, il faut absolument qu'on se voit en rentrant. Vous rentrez quand? Lundi matin. Bon, lundi matin, on s'est vu au Novotel à Nîmes. On a pris un petit déjeuner. Et là, j'ai mis du temps à le convaincre, parce qu'il n'était pas...
Il n'était pas motivé au départ?
Non, parce que c'est un homme de formation. C'est un homme qui aime pas les feux de la rampe, qui aime pas les projecteurs, qui aime bien travailler dans l'ombre. Mmh. Un grand bonhomme. Et puis, je lui ai dit, bon, écoute, voilà... Moi, j'ai répondu à l'appel à l'époque non plus, ça ne me disait pas grand-chose. Il faut y aller, mon vieux, on n'a pas le choix. Donc il m'a dit, ok, bon, voilà comment ça s'est fait. Mais ce n'était pas évident au départ. Mais heureusement que j'avais Bernard Blacquart, d'ailleurs. Parce que ça n'aurait pas été Bernard Blacquart, je ne sais pas ce qu'on aurait fait.
C'est vrai que c'est assez amusant, parce qu'en fait, il s'est retrouvé un petit peu dans la situation qui était la vôtre quand on vous a nommé président. C'est-à-dire que vous veniez pour autre chose, il venait aussi pour autre chose, même si la formation et l'entraînement, il y a un lien plus grand. Et au final, ça a fonctionné. Puis quand on voit l'équipe qui continue maintenant, qu'il est toujours en poste, etc., c'est, c'était des nominations extrêmement bénéfiques pour le club.
Oui, mais c'est une des raisons qui, à mon avis, le fait basculer, c'est le fait que je lui ai dit, moi, je comprends pas qu'une fois que les joueurs intègrent les centres de formation, on les forme, après ils passent pro, et puis après c'est fini, quoi, il n'y a plus de formation. Or, ça n'existe pas, on continue à se former. Donc il faut qu'il y ait une liaison entre le centre de formation, l'équipe réserve, l'équipe première, pour que tout ça, ça soit une période de formation continue, quoi. Et quel le meilleur moyen d'avoir ce système de formation continue que d'avoir le patron de la formation comme patron des pros, parce qu'au moins là il sait de quoi il parle quand il parle formation, il a les jeunes, on est obligé de travailler avec des jeunes, il les connaît, les jeunes lui font confiance, il sait leur parler, il sait les mettre en valeur. Bon, voilà, maintenant, je suis content que ça marche. À l'époque, si on m'avait dit qu'on en serait là, j'aurais été très heureux.
Alex.
Toi, Philou, Maolida, du coup, qui devient formateur des jeunes alors qu'il est passé par l'équipe première, c'est un cycle vertueux, du coup, pour vous, pour un club ?
Ah oui, moi, je crois que c'est très important. On le voit dans d'autres clubs. Quand t'es des grands joueurs qui sont en fin de carrière, qui ont fait une très belle carrière, peuvent rester dans le club où ils travaillent pour pouvoir prendre des rôles soit de formateur, soit d'encadrement, soit de, je dirais, dans le domaine sportif. Oui, bien sûr, il faut qu'il y ait une continuité. On ne peut pas continuer à avoir des clubs dans lesquels les joueurs et tout l'encadrement changent régulièrement. Ça ne se tient pas.
Oui, on parle pas mal de l'aspect amateur de ce club qui a un budget limité avec des infrastructures correctes, mais quand même toujours limitées. Est-ce que vous pensez que ça va changer à terme, vous, deux ans après ? Est-ce que vous, ça a été un point de rupture entre Rani Assaf et vous, de vous vouloir peut-être amener le club plus haut et de lui peut-être pas autant investir que vous voudriez ou le vouliez à l'époque ?
Non, je crois que c'est pas comme ça que ça a marché. Quand il me donne la présidence, quand il me demande d'être président, j'ai accepté pendant 2-3 ans pour remettre le club à flot. Hein. Encore une fois, il fallait nettoyer un peu tout ce qu'il y avait à nettoyer. On était pratiquement relégués, sinon moins 8 points. Donc il fallait se concentrer là-dessus. Après, une fois que tout ça s'était fait, on était maintenu, tout allait bien, tout était organisé, on avait une équipe, on avait recruté les bons, Bernard Blacard était là. Bon, après, moi j'ai rendu les clés au président, c'est lui le propriétaire. Il y a très peu de clubs, très très peu de clubs en France, des professionnels Ligue 1, où le propriétaire n'est pas président. Bon, alors il y a Marseille avec Jacques-Henri Hérault, il y a Bordeaux, parce que ce sont des Américains, si vous voulez. Mais sinon, voilà, c'est propriétaire-président. Quand je dis propriétaire, il n'a pas 100%, mais propriétaire-président, à Nantes, à Toulouse, à Nice, enfin tous les clubs ont leur président à la tête. Donc, et à partir du moment où le gros travail de nettoyage et de réorganisation était fait, il ne restait plus. Je dis ça entre guillemets, il ne restait plus qu'à faire tourner la baraque. Et là, Rani était capable de le faire. Donc c'était normal que Rani, il avait envie de s'impliquer. Donc c'est normal qu'il prenne. C'est lui le président, c'est son argent quand même.
Et justement, lors de votre départ, vous aviez annoncé que, après donc, votre départ, vous avez annoncé que si cela n'était pas mon argent, j'aurais fait autrement. Cette phrase, elle a pas mal surpris Annie, mais comment vous l'expliquez ? Bon, on parle surtout d'un mois de juin 2016 où vous quittez le club. Où Rani Assaf découvre certaines choses au club alors que vous êtes en vacances, et il y a ce départ précipité, ce communiqué du club. Comment ça s'est passé ?
Oui, mais bon, voilà, il vient me voir en me disant, bon, écoute, moi je savais, bon, Rani Assaf, c'est quelqu'un qui sait compter. Hein. Il compte aux centimes, il fait très attention. La culture free est une culture où on ne dépense pas beaucoup. Donc voilà. Bon, je n'ai pas la même culture. Je suis plutôt un investisseur. Alors c'est vrai que c'est plus facile d'investir l'argent des autres que le soi-même. Hein. Donc je suis plutôt investisseur que compteur. Donc à un moment donné, à partir du moment où il voulait que le club soit géré de façon extrêmement rigoureuse, je dirais au centime, moi je ne me voyais pas... À partir du moment où il voulait intégrer l'équipe de management pour pouvoir gérer en tant que directeur général, je ne me voyais pas en tant que président et lui comme directeur général. Ça ne se fait pas. On ne peut pas avoir le propriétaire comme directeur général et le président qui n'est pas. Donc
C'est là où il y a eu rupture.
Bah, c'est là où il y a eu rupture, mais une rupture.
Amicale.
Amicale, oui, bien sûr. Il n'y a pas eu de bagarre. Rien. Moi, j'étais heureux, je vais vous dire, j'étais heureux de rendre les clés parce que c'est un poste très, très, très exposé, nerveusement et autres. C'est compliqué.
Dernière question. Après, bon, de toute façon, on aura l'occasion de continuer cet entretien en troisième partie d'émission. Messieurs, en deux ans de présidence, c'est court, deux ans quand même, mais quel est votre meilleur souvenir, un match en particulier qui vous a marqué? Le 5-4, peut-être, mythique face à Dijon en 2015?
Moi, j'y étais, je vous avais vu.
je ne sais pas, je crois... Non, celui qui m'a marqué, alors il y en a beaucoup, Dijon, enfin tout ça. Je crois que ce qui m'a marqué, c'est contre Metz à la maison, on gagne 2-1 à 93e minute avec un but de Sissoko.
Sissoko, oui.
Et là, on sort de la zone rouge. Et là, c'était vraiment le match qu'il fallait absolument
gagner. C'était la saison à moins 8 points.
Oui, c'était la saison à moins 8 points. Et on sort de la zone rouge, et on est... Et là, c'est là où on a commencé à sentir, là, ça sent bon.
Et à respirer aussi.
Et c'est à la 93e minute. Et là, j'en ai encore des frissons, parce que c'était tellement violent. On attendait ça, moins 8 points. Il a fallu tenir en étant toujours les derniers. Et même si on gagne, on est encore dernier. C'est dur, psychologiquement.
C'est un poids qui s'enlève, je suppose, effectivement. Quoi. Sur un but comme ça, tout ce poids de sortir du rouge.
Ah oui, bien sûr. Oh, c'était énorme.
Très bien, merci Monsieur Christian Perdrix. On vous retrouve juste après Monsieur le Président. Hein, donc troisième partie d'émission. Bougez pas, le 11 de Nîmes, l'émission consacrée au Nîmes Olympique, à Nîmes et au football. Ça continue. On fait une petite pause et on se retrouve les amis. À de suite.
C'est plus Ripard, c'est Ricard. Il nous a bu un verre de Ricard. Et l'autre Joub, c'est Zboub. Un Zboub humain. C'est quand tu vas t'arrêter de dribbler. C'est incroyable ça. Oh, il a dribblé sur sa grand-mère. Oh, incroyable. Oh là, il a dribblé l'arbitre. Il a dribblé les cages. Oh, il a dribblé les stagiaires. Oh, calme-toi. Calme-toi, fils de TGV, calme-toi.
Le 11 de Nîmes, l'émission du Nîmes Olympique sur Rage.
De retour donc dans cette émission, le 11 de Nîmes consacré au Nîmes Olympique. Vous êtes toujours sur l'antenne de Rage à Nîmes, sur le 102.5 en FM. Vous nous écoutez peut-être sur le www.rage.fr. Aussi, vous pouvez retrouver le podcast et vous pouvez aussi le retrouver sur iTunes, le podcast. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Facebook, le 11 de Nîmes, pour avoir toutes les actus fraîches sur le Nîmes Olympique. On est toujours avec l'ancien président du Nîmes Olympique, monsieur Christian Perdrix. Et justement, on va parler de ce match de demain soir face à Amiens, avec lui, on va en profiter qui est là, avant match donc je le disais, demain à partir de 20h au stade des Costières, première fois en Ligue 1 pour cette affiche.
Salut, c'est Anthony Briançon, vous êtes bien sur Rage pour le 11 de Nîmes.
Donc avant match de Nîmes-Amiens, mais messieurs, on ne pourra pas parler hein, de ce match, j'ai oublié de le dire, mais de match de Coupe de la Ligue, 16e de finale contre Saint-Étienne, puisqu'on enregistre l'émission le mardi, on diffuse le vendredi, donc le match était mardi, donc on ne pourra pas en parler. On suppose qu'il y a eu beaucoup de turnover sur ce match. Bref, concentrons-nous donc sur ce match qui est demain face à Amiens. Quelques chiffres sur ce match, mon cher Bill, qu'est-ce que ça donne niveau chiffres?
Alors Amiens a seulement 13 points à l'heure actuelle, il compte 5 points de moins que l'an dernier où il avait 18 points et vous avez fini 13e avec un stade qui s'était pété la gueule mais le soutien du président de la République puisqu'il est d'origine amiénoise.
C'est vrai que c'était tragique, c'était bien amené Bill.
C'est une ville plus petite que Nîmes, hein. C'est une ville plutôt Ligue 2 tant au niveau de la population qu'au niveau de la taille du stade qui a 11 000 places quand il est rempli. Nîmes contre Amiens, c'est au Costières, c'est que des matchs de Ligue 2, c'est 4 victoires nîmoises, 4 nuls et 3 défaites. Et en revanche, il faut remonter à 1998 pour voir les Crocos gagner contre Amiens. Et c'était quand on était champion du monde, mais on l'est toujours, donc il n'y a aucun problème pour le match de samedi.
20 ans plus tard, on va remettre ça. Alors messieurs, si on parlait un petit peu du jeu d'Amiens, vous avez l'occasion de les voir jouer, Christian Perdrix, ou pas Amiens?
Oui, c'est une très bonne équipe, hein, c'est très solide. Il va falloir qu'on joue bien. Là, parce
ouais,
que, il n'y a pas de grandes individualités, mais c'est solide comme équipe.
C'est une équipe qui aime contrer, comme Nîmes, qui aime pas trop avoir le ballon, qui aime laisser le ballon à son adversaire et plutôt contrer, qui aime bien jouer aussi sur le côté avec Mendoza et Otero, les deux ailiers, comme nous on peut le faire avec Tube et Bouanga. Tu t'attends à quoi, toi, sur ce match, Benjamin? Tu la crains, cette équipe, ou pas?
Crain, non, mais je trouve que c'est une équipe qui a beaucoup de similitudes avec nous, justement. Peu de moyens, une montée tout simplement en Ligue 1, un entraîneur atypique qui n'a pas de cursus professionnel et qui a des systèmes de jeu très proches et des visions de jeu très proches de, enfin, assez proches de Bernard Blacquart. Du coup, non, je m'attends à un match assez serré avec des joueurs et des valeurs sûres en face côté Amiens.
Alex.
Oui, étant natif moi-même de la Somme, je vous apprends quelque chose. Mais du côté d'Amiens, je pourrais vous parler des similitudes entre la Camargue et la Baie-de-Somme. Mais on va plutôt parler tactique de jeu.
Il y a moins de moustiques là-haut.
Il y a un peu plus d'eau tarie par contre. On bascule donc avec Amiens sur le dernier match contre Marseille sur un 4-3-3.
Ouais.
Comme exactement Nîmes sur notre dernier match. Bon, ils ont été moins heureux sur ce dispositif, alors qu'à la base, ils étaient plutôt sur un 3-4-3, voire un 3-5-1. Donc pareil, trois défenseurs, un milieu assez costaud, et puis voilà, des attaquants qui sont là en pointe pour faire le jeu de contre qu'on a nous aussi. Donc ouais, peut-être un match un peu piège pour nous, comme on les aime pas forcément selon les équipes qu'on rencontre.
Benjamin.
Ouais, il faut rappeler qu'ils ont perdu Kakuta, qui était leur maître à jouer
l'année dernière.
Et là, cette année, on aura donc Ganso, qui était le grand espoir du Brésil avec Neymar il y a 5-6 ans maintenant.
Ah oui, c'est vrai.
Et qui joue pas trop, qui a pour l'instant pas trop confirmé.
J'ai vu le match contre Marseille, il est rentré à la fin. Ouais.
Et pardon.
Oui, ils jouent aussi Konaté, qui était leur meilleur buteur l'an dernier, qui est blessé. Donc leur meilleur buteur de l'an dernier et leur meneur de jeu, qui était deuxième meilleur buteur, sont absents, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous, surtout quand on rajoute à ça le fait qu'ils sont 20e et donc dernier au classement des matchs à l'extérieur. Donc ils voyagent assez mal cette année à Amiens.
Ils ont aussi Zungu, qui est un milieu de terrain sud-africain, qui est très important, qui était très important l'année dernière et qui ne sera pas là pour ce match. Donc on verra ce que fera Godos, l'attaquant iranien, à la place de Konaté.
Ils ont fait un gros mercato d'été, en tout cas, avec beaucoup de recrues. On dirait que presque la moitié de l'équipe a changé avec l'arrivée de Ganso, Sama Godos, Rafael Kurzawa, Emile Kraft, Juan Ferné Otero et Eddy Gnaouré qui sont arrivés, même s'ils ont eu le départ, on disait de
Gaël Kokota. On peut constater à la consonance des noms que c'est que des joueurs étrangers, il y a beaucoup de langues dans le vestiaire d'Amiens, et ça par contre c'est tout l'inverse de Nîmes où Bernard Blacquart ne veut que des francophones globalement.
D'accord, très bien. Donc,
il faut se méfier quand même de pas... Bon, oui, sur le papier, ça a l'air d'être une équipe qu'on peut prendre, mais il faut se méfier, parce que quand on se la joue trop facile, on risque de se... On risque d'être en difficulté, donc il faut rester très concentré, je crois.
C'est ça, peut-être pour finir un petit peu le point d'avant-match. Contre Strasbourg, les cotes étaient totalement. Les cotes de Paris étaient totalement en faveur de Strasbourg. Là, à l'heure actuelle, elles sont totalement pour Nîmes, avec une victoire de Nîmes à 1,95, un nul à 3,35 et une victoire amiénoise à 3,90. Mais Nîmes est parfaitement imprévisible et peut l'être dans le mauvais sens aussi, c'est certain. Donc il faut se méfier.
Donc, comme disait très bien M. Perdrier, il faut se méfier. En plus, c'est une équipe qui est très disciplinée, moi, de ce que j'ai pu analyser. Avec pression sur le joueur adverse, toujours dans les 25 mètres. Ils jouent bien en bloc, ils se déplacent bien ensemble. Pélissier, pour la petite histoire, a même fait tracer des lignes sur le terrain là-bas pour que les joueurs amiénois aient des zones à respecter pendant les matchs. Donc là, au Costières, il n'y aura pas les lignes sur le terrain, malheureusement pour eux. Mais en tout cas, voilà, c'est pour montrer un petit peu la vigueur et la rigueur, en tout cas, de cet entraîneur Christophe Pélissier, que personnellement, j'apprécie beaucoup.
Qui était l'ancien de l'USNAC qui n'avait pas réussi à monter, qu'il avait fait monter en Ligue 2, et il a pris Amiens en National, les a fait monter en Ligue 2 et les a amenés aujourd'hui en Ligue 1. Donc c'est un très bon coach, comme Bernard Blacquart. Il y a des similitudes entre les deux.
Équipe qui défend très bien aussi sur coup de pied arrêté, donc là ça risque de poser peut-être problème, parce que nous on est très bon sur coup de pied arrêté sur les derniers matchs, notamment depuis le retour de
Savanier. Mais on a Livoui maintenant, donc écoute,
on a Savanier surtout, qui tire très bien les corners et les coups de pied arrêtés. Alex.
Ouais, non, juste pour un petit point global du coup du championnat que j'aime bien faire. On est donc 11e avec 17 points, Amiens 16e avec 13 points, tu l'as rappelé Bill, mais il y a quand même 4 équipes qui sont à 17 points, donc les enjeux sont assez forts là encore pour vraiment se détacher et arriver sur la première moitié du tableau. En tout, il y a 6 équipes qui sont qu'à 2 points d'écart, donc la journée qui arrive va être assez importante, comme j'ai l'impression de répéter ça à chaque semaine, mais oui, ça l'est encore, puisque personne n'est vraiment détaché à part les stratos stratosphérique parisien ou alors les quasiment déjà relégables. Donc voilà, Amiens aura pour enjeu de s'éloigner de ses relégables et Nîmes de s'écarter de ce ventre mou du championnat.
Alors je vous propose qu'on conclue. Tu voulais rajouter un petit quelque chose, Bill ?
Peut-être un petit pronostic
pour oui, conclure. Mais justement, je voulais qu'on en arrive là. Je voulais juste rappeler donc l'arbitre, si je dis...
Karim Abed, qui a arbitré voilà. Le 0-0 contre Reims au Costia. On espère un score différent. Enfin, 0-0, on peut prendre quand même, mais...
Enfin, je prends plus.
Oui.
Il reste évidemment des places pour demain soir,
oui,
toujours.
C'est
important de le rappeler, de ne pas rester dans son canapé, comme tu l'as...
N'est-ce pas, Yann ?
Tu l'as très bien écrit. J'avais des obligations professionnelles, mon cher ami, je suis désolé.
La bière était plus fraîche, là.
Ah, c'est ça. Oui, le retour de la bière
au Costière.
C'est le retour de la bière, ça y est. On note aussi, bien sûr, la suspension de Loïc Landre, encore deux matchs, mais le retour de Mawa ça, pardon, qui revient après suspension, Arek et Alakouche qui seraient aussi normalement disponibles pour ce match demain. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Alors c'est parti pour les pronos, mon cher Bill, je te laisse la main.
Alors si je m'écoutais, je dirais une raclée, mais comme Nîmes est imprévisible, je vais dire une petite victoire 2-1.
2-1, très bien. Alex ?
Ouais, moi aussi j'aurais dit exactement pareil, un petit 2-1, ouais, qui va bien.
Bah, je vais pas être original, et avec la venue de Ferry, ça m'a rassuré, je dirais 2-1 aussi pour Nîmes.
Moi je mettrais 3-1.
3-1 bon, on va tous dire la même chose les gars, c'est pas bon ça. Bon, je dis 2-1 aussi, bon, je dis 2-0 moi. Je dis 2-0 parce que je trouve qu'en ce moment on défend bien, donc je pense qu'on va pas prendre...
Ouais, c'est vrai qu'il y a Bernardoni.
Il y a la couche qui revient, il y a du beau monde, je pense qu'on va pas se prendre de but et ça ferait du bien à la défense. En tout cas, on espère gagner ce match. C'est demain, c'est au Costière, les amis. Reste des places, donc n'hésitez pas à y aller. On se tourne une nouvelle fois face à Monsieur Christian Perdrier. Encore quelques questions à vous poser. Benjamin, je te laisse la main, vas-y.
Du coup, je voulais savoir qu'est-ce que vous faites désormais depuis ce départ du Nîmes Olympique ? Comment vous occupez vos journées ? Qu'est-ce que vous faites ? Dites-nous tout.
Je m'occupe de ma fille, je m'occupe de ma femme, je m'occupe de moi-même. Je regarde le foot, je prends le temps de lire les journaux, je prends le temps de vivre. Et ça fait du bien, je suis sûr.
Prendre le temps.
Prendre le temps. Ah, surtout après les deux années très, 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 très intenses au niveau olympique. Donc, ça fait du bien de souffler.
Il faut du temps un petit peu pour prendre du recul après une période de présidence comme ça qui doit être très... Vous le disiez un petit peu tout à l'heure, qui doit être très stressante, très, très éprouvante au niveau nerveux.
Oui. Surtout après ce qu'on a vécu. Ça aurait été une présidence, je dirais, entre guillemets, normale. Bon, on ne serait pas monté aussi haut. L'adrénaline a été très, très, très forte. Quand on prend le club dans l'état où il était, quand on est moins 8 points, et puis qu'on se maintient, tout ça, c'est une adrénaline énorme, énorme. C'est dur, après il y a un moment de décompression. Oui.
Et moi, du coup, je voulais vous demander, 2 ans après, qu'est-ce que vous retiendrez en numéro de cette expérience, de la frustration, de la joie, de la fierté, de qu'est-ce qui vous a le rendu le plus heureux et la plus belle anecdote aussi, s'il y en a une, de ces 2 ans de présidence.
Alors, moi, je crois que la plus grande fierté que j'ai, c'est d'avoir ramené du monde au Costière. C'est-à-dire le fait que le public a retrouvé son équipe et qu'ils étaient de nouveau fiers de son équipe et ils étaient derrière eux. Parce que moi, je crois que l'équipe n'en serait pas là aujourd'hui si le public n'était pas derrière eux. Et on le voit bien à chaque fois, c'est un chaudron, Nîmes Olympique. Donc là, je suis fier de ce qu'on a fait pour le public. Je crois que
pour ne pas le
important.
Cacher, en plus, on a commencé à parler régulièrement du Nîmes Olympique sur l'antenne de Rage. À cette période-là, quand vous étiez à la présidence, je commençais à aller voir les matchs qui étaient... Seulement 2 euros à l'époque, je le rappelle. Quand même, c'était plutôt sympa. Alex ?
Non, je voulais juste dire une bêtise. J'aime bien dire des bêtises. Mais justement, on vous invite, Christian Perdrier, pour voir si vous allez aussi ramener des auditeurs sur le 11 de Nîmes côté de Rage. Vous avez fait un bel effort côté Costière. On va voir si c'est le cas côté auditeur sur Rage.
Je vais faire mon possible. Hein. Non. Et puis, la plus belle anecdote, ça a été le moment où, en tout cas, en ce qui me concerne, contre le Gazélec, là, on monte en première division. Je crois que c'est le Gazélec qui me semble, oui. J'étais au Costière et on est tombé dans les bras l'un de l'autre avec Rani. C'est un moment intense. On a partagé énormément de choses. On était contents de nous, quoi. Donc, je crois que c'est ça que je retiens.
C'est pour ça qu'on fait ce métier un peu aussi. Hein.
Oui,
pour ce moment-là.
Bien sûr.
On sent que c'est un peu à vie. Hein. Vous dites nous toujours et le club est en vous, quoi.
Ah, oui, c'est peut-être ça la plus grande partie. C'est Christian Perdrier qui dit nous 2 ans après ça. Ouais.
Non, mais c'est, bien sûr. Je dirais toujours nous parce qu'on a vécu cela. On a mis les joueurs, tout le monde, les dirigeants, on a tout mis sur la table. On était moins que rien à l'époque. Hein. Et si on s'en est sorti, c'est parce qu'on n'a pas écouté et qu'on s'est dit, nous, on va s'en sortir. Nous, on va leur montrer à tout le monde ce qu'est Nîmes, ce qu'est l'équipe de Nîmes et ce qu'on aurait dû faire. Quoi.
On peut parler de votre enfance aussi. Comment est venu cet amour du football, ce rapport avec le football? Et quelle est votre équipe favorite? Là, vous avez le droit de dire autre chose que le Nîmes Olympique, bien sûr.
Après le Nîmes Olympique?
Après le Nîmes Olympique.
Non, le football, moi j'ai fait du football quand j'étais jeune, hein, comme tout gamin. Ouais. Et puis j'ai été, à l'époque où j'étais au lycée,
en Normandie,
j'ai été champion de Normandie en football. Et on a été au championnat de France universitaire à Paris. C'est la grande époque de Sardou. Parce que...
Je ne m'en souviens pas, moi.
On ne parle pas de la même chose. Donc, le foot, oui, c'était. Puis c'est un sport d'équipe. Moi, je suis un homme d'équipe. Je ne suis pas un homme individuel. Je n'aurais jamais pu faire un sport individuel type athlétisme ou ce genre de choses. Je suis un sport d'équipe parce que je ne crois qu'en équipe. Je crois qu'on est tous ensemble, on souffre tous ensemble, mais on a des victoires tous ensemble. Donc, c'est un petit peu pour ça que je suis derrière Nîmes.
Très bien, mais merci beaucoup. Christian Perdrix sera la conclusion de cette émission. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Vous revenez quand vous voulez, avec grand plaisir, pour parler football, parler du Nîmes Olympique avec nous, boire le café aussi avant, il n'y a pas de souci. Merci à vous, messieurs, merci à Monsieur Stat, Bill, merci à toi.
Merci tout le monde, et merci à vous, Monsieur Perdrix.
Merci à vous de m'avoir accueilli.
À bientôt, Alex. À bientôt. Alex, tu voulais rajouter un truc?
Ouais, la semaine prochaine, on est décalé dans la diffusion. Ouais. Calendrier oblige, on s'adapte, on se retrouve le mercredi à 14h sur l'antenne de Rage.
Tu fais très bien de le préciser parce que je l'aurais oublié. Merci Benjamin aussi d'être toujours aussi fidèle. On n'oublie pas d'aller faire un tour sur la page Facebook Le 11 de Nîmes, de retrouver le podcast sur iTunes, sur le www.rage.fr et de nous écouter aussi exceptionnellement la semaine prochaine, donc mercredi c'est à 14h, hein, c'est à 14h-15h, exceptionnellement la semaine prochaine. Avant le match de Caen, exceptionnellement, toujours sur Rage, toujours sur le 102.5 en FM à Nîmes. Allez les rouges et à très bientôt les amis. Les Nîmes. Ciao.
Ah. Merci.
Merci Noël, j'oublierai jamais.
Je t'en prie mon vieux.
Entre nous maintenant, c'est à la vie, à la mort.
D'accord. Mais la prochaine fois que tu changes de monde, fais attention aux crocodiles.
Tu peux me demander ce que tu veux.